Le livre de la Genèse, chapitre 39. Et ce matin, nous allons considérer l'Éternel en Égypte. Genèse 39, et je vais donner lecture. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit : couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître : voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a point interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal, et pécherais-je contre Dieu ? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et il s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous ». Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors elle lui parla ainsi : l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait « voilà ce qu'a m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. C'est là la parole de Dieu. Donc nous reprenons au début de notre chapitre 39, la fin du chapitre 37 que nous avons vu il y a quelque temps. Et on pourrait regarder le chapitre 38 que nous avons vu la semaine dernière avec les mésaventures de Judas, Tamar, l'aspect sordide de ces choses. On pourrait regarder cela comme une sorte d'excursus au récit principal. un genre d'à côté. Mais comme nous avons vu la semaine dernière, cet épisode, chapitre 38, est important pour expliquer comment Dieu accomplit son dessein de grâce. Parce que la Genèse, la parole de Dieu, n'est pas simplement un livre que nous lisons comme nous lisons d'autres livres. Ce chapitre en particulier nous explique comment, d'un homme misérable, il fait venir celui qui se tiendra dans son alliance. Et c'est intéressant, hein, c'est probable que Paul pensait à cela dans certains de ses écrits, comment Dieu prend Judas, qui est vraiment au fond, qui est l'homme qui est probablement le moins propice pour faire quoi que ce soit. Et il le fait venir dans cette alliance de laquelle vient celui qui est tout, qui est en fait le centre des cieux, de la gloire céleste, qui va venir dans la pauvreté la plus abjecte afin d'accomplir le salut de son peuple. C'est ainsi que Dieu accomplit son dessein de grâce. Et donc le chapitre 38 est très important. Et ça n'est pas ce petit à côté, cette parenthèse, cet excursus, au contraire. En fait, maintenant nous sommes déjà bien engagés dans l'histoire de Joseph. Et cette histoire qui va nous accompagner jusque presque à la fin, on pourrait dire carrément jusqu'à la fin du livre de la Genèse, cette histoire de Joseph nous paraît être le récit principal. Mais en fait, il vaudrait mieux le considérer comme un à côté. Ça va nous prendre pas mal de chapitres, n'est-ce pas? On est déjà avec Joseph depuis un moment, comme je dis, et on ira jusqu'au bout avec Joseph, mais en quelque sorte, cette histoire de Joseph, c'est un à côté. Elle ne fait pas vraiment partie, ça n'est pas l'échine de l'histoire principale que Moïse raconte ici. Rappelons-nous que la Genèse nous montre comment Dieu fait avancer sa promesse d'alliance et nous annonce celui qui doit venir. Et elle le fait, le livre de la Genèse le fait en particulier à travers la lignée choisie, la lignée d'Abraham. Abraham a été choisi, appelé, il a reçu les promesses de l'Alliance et il les a communiquées, et c'est ainsi que nous avons vu. Or, avec Joseph, ce développement de la promesse de l'Alliance est en quelque sorte mis en pause, tout au moins jusqu'à la fin de la Genèse. Ensuite, on reprend. Joseph, lui-même, tout important qu'il est, ne se tient pas dans la lignée de la promesse, quand bien même il est au bénéfice de la promesse. Mais la promesse ne va pas s'accomplir à travers lui, comme nous avons vu la semaine dernière. Que dire alors de Joseph? Il est très important, car il nous donne une image très précise de celui qui doit venir accomplir le salut des siens. Et on va continuer à voir des tas de parallèles, des tas de prophéties à travers la personne de Joseph et les aventures qu'il vit, son expérience. Et Joseph nous montre en partie comment Dieu accomplit ce dessein, comment celui que Dieu va envoyer va accomplir ce dessein. C'est une image très précise. Alors, si Joseph n'est pas l'héritier de la promesse de l'Alliance, il n'en est pas moins un sauveur, petit s, pour son époque. Une illustration, en fait, du grand sauveur, avec un S majuscule, ce sauveur eschatologique qui va venir à la fin des temps et qui est venu et qui doit revenir. Donc ici, nous avons l'image que Joseph nous présente. Et notamment, l'exemple de Joseph montre deux choses en particulier. Je parle de l'exemple jusqu'à maintenant. Ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, c'est un peu un cours de révision, de remise à niveau. Pour commencer, première chose, la haine que lui vouent ses frères ne concerne pas Joseph en lui-même. Ce n'est qu'un adolescent. Mais cette haine, c'est plutôt contre ce que Dieu fait de lui. C'est parce qu'il est choisi par le Père. C'est parce que la révélation de Dieu quant à la mission qui lui est confiée vient par lui que ses frères le haïssent. Alors bien sûr, en cela, il est le précurseur du Seigneur Jésus. Dieu l'a choisi pour accomplir le salut et recevoir l'honneur suprême. Il vient pour mettre à mort le péché que l'homme aime tant. Et c'est là la raison de la haine de l'homme pécheur contre le Sauveur. Un simple Jésus moral, il va jouir d'une certaine tolérance de la part du monde. Et de même, l'Église, comme nous voyons aujourd'hui, hélas, l'Église est acceptée du monde si le Sauveur qu'elle présente n'est qu'un exemple, un modèle, et rien de plus. Une aide qui permet de vivre une vie acceptable. Une Église comme cela ne va jamais connaître la persécution, pour la simple raison que ce n'est pas une Église, quoi qu'elle s'appelle. Donc la première chose, la haine du monde se dirige contre le dessein de Dieu. Cela peut nous aider quand nous passons par des moments de persécution et des moments de difficulté. La seconde chose que nous pouvons voir, retirée des aventures de Joseph, tout au moins jusqu'au point où nous sommes là, c'est que les actions des hommes n'entravent jamais l'accomplissement du dessein de Dieu. En fait, sans ces actions-là, le dessein de Dieu ne se produirait pas. Ce n'est pas à dire que Dieu n'est pas capable de le faire. Non, non. Mais en fait, les actions des hommes contribuent à l'avancement de ce dessein. Les hommes portent leurs responsabilités, bien entendu, mais Dieu accomplit son dessein inexorablement et il utilise ces actions qui sont en fait des actions méchantes, mauvaises, des actions qui cherchent à faire disparaître, à mettre à mort ce dessein. Et bien sûr, cela se voit éminemment dans le Seigneur Jésus, une fois encore. Il ne suffisait pas que les pharisiens s'opposent à lui. Il fallait le faire disparaître. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était le dessein arrêté de Dieu. Parce que sans effusion de sang, mes amis, il n'y a pas de pardon. Et tout aussi surprenant, cela s'applique à ma vie individuelle aussi. Comme le dit Paul, c'est par beaucoup de persécutions, de tribulations, que nous devons parvenir à la vie éternelle. Si nous attendons d'avoir une vie facile, alors il vaut mieux oublier l'Évangile tout de suite. La mort du Seigneur sur la croix a été une tragédie terrible. Pensons simplement au propos de ces deux disciples abattus sur le chemin d'Emmaüs, vous vous rappelez, nous pensions que ce serait lui. Mais voilà, c'est déjà le quatrième jour, n'est-ce pas? Et quelle est la réponse? La réponse, c'est « ne fallait-il pas que ces choses se passent ainsi? » C'est par la croix que s'accomplissait le dessein de Dieu. Et alors que Joseph disparaît dans la poussière de la caravane des Ismaélites, celui qui a bien lu le récit peut se demander « qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» On a eu des révélations, on a eu une image. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tout semble perdu. Car nous avons oublié, en fait, la prophétie du chapitre 15. Et vous vous dites, mais de quoi est-ce qu'il parle? Exactement, nous l'avons oublié. Cette prophétie selon laquelle les descendants d'Abraham iront dans une nation étrangère et ils seront asservis pendant plusieurs siècles, puis délivré par l'Éternel. Et c'est une promesse qui est donnée au moment de l'Alliance, quand l'Alliance a été coupée, quand la flamme est passée au milieu des carcasses, n'est-ce pas? Une prophétie, on l'a oubliée. Et qu'en est-il devenu? Elle est en train de s'accomplir. La promesse de l'Alliance vient dès la chute dans le péché. et elle concerne la libération d'une créature qui est asservie au péché. N'oublions pas cela. Parce que nous allons voir, notamment dans les chapitres qui viennent, que beaucoup de réussite dans la vie de Joseph. Mais ça n'est pas la chose importante. La chose importante, c'est que Dieu accomplit son œuvre et il le fait à travers beaucoup de douleurs. Et Joseph, esclave, vendu, marche vers l'Égypte. Il arrive en Égypte et il n'en ressortira jamais, sinon par la foi. Et nous verrons ça à la toute fin du livre. Bien sûr, là encore, nous pensons à celui qui volontairement a quitté la maison de son père pour s'assujettir au sort de son peuple, pour subir le sort de son peuple. Il a quitté la gloire céleste et il s'est soumis aux exigences de la loi de Dieu, ainsi qu'à la sentence de la justice de Dieu. Joseph est en Égypte, mais Moïse nous annonce quelque chose d'étonnant. Joseph n'est pas le seul à être en Égypte. Et c'est notre premier point. L'Éternel fut avec lui en Égypte. Et dans le chapitre 39, le chapitre que nous considérons ce matin, cette phrase vient à 4 reprises. J'ouvre une toute petite parenthèse. Rien qu'à la lecture du chapitre 39, on s'aperçoit qu'on pourrait passer plusieurs mois simplement à l'examiner et à en retirer toute la moelle qu'il y a dedans. Mais il nous faut nous limiter, n'est-ce pas? Parce que nous ne voulons pas voir simplement un récit de la vie de Joseph, mais cette promesse de l'Alliance. Donc, la phrase là, « L'Éternel fut avec lui » ou quelque chose de semblable, revient 4 fois dans notre chapitre. Et il est donc important de bien la comprendre, de voir ce que cela veut dire. En effet, 2 de ces occurrences nous disent que la présence de Dieu avec lui résultait en ce que la prospérité l'accompagna. Parce que l'Éternel était avec lui, les choses réussissaient autour de lui. Nous lisons aussi que l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Alors, très peu parmi nous auront de la difficulté à voir que l'Éternel était avec Joseph, puisque tout lui réussissait. Ça semble tout à fait normal, n'est-ce pas? Tout le monde associe la bénédiction ou la chance à la réussite et la prospérité. Si tout va bien, on est béni, n'est-ce pas? Et effectivement, Joseph bénéficie de la faveur de Potiphar. Son ascension professionnelle est fulgurante. De nouvel esclave étranger, il ne tarde pas à s'élever au rang d'intendant. En fait, il est le gestionnaire et même il est un fin stratège parce que les affaires de son maître fleurissent. Oui, pas de doute, l'Éternel est avec Joseph et cela se voit. Ce disant, nous oublions quelle est la réalité de sa situation. Joseph n'est plus dans la maison de son père. Il n'est plus au sein de la communauté de l'Alliance. Il est en Égypte. Nous avons oublié la haine de ses frères qui a finalement payé. Ils se sont débarrassés de lui. Nous avons oublié le terrible voyage en Égypte. C'était probablement pas de la première classe. Nous avons oublié le marché d'esclaves, où on le considère comme un animal, où on troque, on va négocier un prix pour lui. Et nous oublions son entrée dans une maison étrangère, où il faut qu'il apprenne des tas de choses. Nous oublions ce travail incessant comme esclave, sans même un merci, parce qu'il a coûté cher probablement. C'est un beau gars. Voilà la réalité de Joseph. Alors comment est-ce qu'on peut dire « l'Éternel fut avec lui » ? Vous voyez un peu la superficialité d'une telle phrase, souvent. N'est-ce pas un lieu commun irréfléchi? C'est un peu comme quand les gens passent par des moments difficiles et puis quelqu'un va essayer de les encourager en disant « Ça va aller, ça va aller. Oui, Joseph, ça va aller. L'Éternel est avec toi, tu vas être béni. » Oui, lui, il aurait bien aimé retourner en Canaan, n'est-ce pas? Pour commencer, Joseph était là où l'Éternel le voulait. Bien sûr, lui ne le savait pas, mais son intimité avec Dieu l'assurait de cela. Le Dieu qu'il connaissait et qu'il servait n'était pas n'importe quel Dieu. C'est celui qui a promis, celui qui fait tout ce qu'il a décidé, celui qui appelle à l'existence ce qui n'est pas. Et Joseph a tout le bagage, on pourrait dire, il a tout l'apport de ce qu'on a vu déjà dans la Genèse. Et il s'en sert parce qu'il est intime avec Dieu. C'est cet Éternel-là qui est avec Joseph. Celui-ci ne savait rien du futur. C'est un peu notre problème. On sait ce qui va arriver, mais lui ne le sait pas. Il ne sait rien du futur, mais il est intime avec le Dieu du futur, avec celui qui annonce la fin dès le début, celui qui est souverain. Alors pourquoi est-ce que je parle d'intimité en rapport avec la relation de Joseph avec Dieu? Parce que cela est évident. Cela est évident. Sa relation avec Dieu n'est pas tributaire des circonstances. Et c'est un signe d'intimité. Pour beaucoup d'hommes, les revers de fortune engendrent la plainte, la haine, la paresse, la malhonnêteté et toutes sortes de choses semblables, n'est-ce pas? Pour celui avec qui l'Éternel est, c'est différent. Il ne vit pas sous le regard des hommes simplement. Il ne vit pas dans les paramètres des hommes. Non, mais il vit devant le Dieu qu'il aime, que lui aime et le Dieu qu'il aime lui. Et nous voyons Joseph se comporter visiblement du mieux qu'il peut. Imaginez, tout est parti en sucette dans sa vie. Il est presque un non-homme maintenant. Et il y a de quoi être découragé, abattu, amer, faire le minimum, le service minimum chez Potiphar, lui faire des vacheries par derrière dès qu'il peut, et ainsi de suite. On connaît des situations comme ça, n'est-ce pas? Mais non, Joseph est un homme qui fait ce qu'il y a de mieux, parce qu'il est intime avec Dieu. Oui, Dieu est avec lui, mais sa réussite n'est pas un coup de baguette magique. En fait, la réussite de Joseph, c'est un produit dérivé. Mais ce n'est pas un coup de baguette magique. Il faut que Joseph s'applique à servir Dieu. Et c'est ainsi que la réussite vient. La personne qu'il était agissait avec honnêteté et honneur. C'est-à-dire que tout, dans son attitude et dans ses actions, fait que la réussite doit suivre, si Dieu bénit. Joseph réussissait dans la maison de Potiphar parce qu'il est le même homme qui, naguère à Shechem, n'est pas retourné tout de suite à Hébron, mais l'homme qui est allé jusqu'à Dothan. Vous vous rappelez? On aurait pu dire, « Ah, j'ai des nouvelles de nos frères, ils vont bien, je vais éviter la haine, je vais repartir à Hébron. » Auprès de mon père, j'ai le rapport qu'il a demandé, n'est-ce pas? Ça, c'est la lettre. Et Joseph n'a pas fait cela, rappelez-vous. Il est allé jusqu'à Dothan, jusqu'à ce qu'il les trouve. Et ça lui a coûté. C'est cet homme-là qui maintenant fait son mieux chez Potiphar. C'est celui-là. C'est la personne qui produit les actions. Et Dieu est avec cette personne dans la prospérité de l'esclavage et puis dans l'horreur de la prison. Mais il est là. L'Éternel est avec Joseph. Et bien sûr, là encore, cela nous fait penser à ce qui est du Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur. Rappelez-vous ce qui est dit de lui. l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Et nous sommes familiers avec ces paroles. Elles résonnent bien, elles ont un bon goût, n'est-ce pas? On dit oui, là c'est vraiment l'assurance pour le croyant. Oui, Christ règne en vainqueur, ça donne courage. Alléluia, on peut chanter et nous écrier. Mais est-ce que nous avons conscience de l'endroit où se trouvent ces paroles? Oui, dans le chapitre 53 de la prophétie d'Ésaïe. Un passage si clair sur les douleurs, les souffrances du Messie, où il est dit littéralement qu'il était devenu un non-homme. Oui, il est couronné, mais c'est d'épines qu'il est couronné. D'épines cruelles, nous dit le cantique. Mes amis, quel genre de personne est-ce que nous sommes quand l'épreuve surgit? Et ce n'est pas des paroles oisives, n'est-ce pas? Si l'épreuve ne nous a pas encore atteint beaucoup, soyons assurés qu'elle va, elle va venir. Mais déjà, chaque épreuve est dure. Est-ce que notre monde s'écroule dans une telle situation? Joseph, l'intendant esclave en Égypte, est l'homme qui servait l'Éternel alors qu'il était dans le cocon de la maison de son père. Et maintenant, il peut servir l'Éternel en Égypte parce qu'il est cet homme-là. Un homme qui est familier avec Dieu. Et l'Éternel était avec cet homme auprès de Jacob, dans la caravane, chez Potiphar, et puis à la fin de notre passage dans la prison. Et plus tard, l'Éternel sera avec cet homme dans d'autres situations. L'Éternel fut avec lui. Que cela nous encourage. Mais notre passage a plusieurs sections, vous l'avez remarqué, n'est-ce pas? Et notre deuxième point, je l'intitule ainsi, « Un aussi grand mal contre Dieu ». Et c'est tout cet épisode avec Madame Potiphar. Une des caractéristiques de cette vie présente, c'est que tout change et rien n'est stable. C'est un lieu commun de le dire, n'est-ce pas? Vous vous endormez le soir avec tous vos projets bien ficelés, vous avez déjà prévu toute la journée qui va suivre, et tout cela pour vous réveiller et constater que tout est tombé à l'eau. Et combien de fois on en arrive à la fin de la journée, on n'a même pas commencé ce qu'on avait prévu de faire, ne serait-ce que le matin. Ici, dans la maison de Potiphar, tout baigne dans l'huile. C'est la prospérité, n'est-ce pas? Travail dur, les capacités sont mises au profit maximum, on a la prospérité, il y a la présence de l'Éternel, tout va bien. Et on peut presque entendre l'écho de ces paroles de ce fermier qui est mentionné beaucoup plus tard dans la parole de Dieu. « Mon âme, prends ton repos, car tu as beaucoup de biens pour de nombreuses années, n'est-ce pas ?» Mais voilà, ici-bas, tout change. Et en outre, il y a quelque chose qui est à l'œuvre dans ce bas monde. Gardons cela à l'esprit continuellement. Quand tout va bien, il y a quand même des choses dans le monde qui ne sont pas bien. D'une part, il y a le péché qui a abîmé et détruit la relation de l'homme avec son Dieu, le Dieu qui est source de la vie. Et c'est pour ça que l'homme est assujetti à la mort. Cela a placé cet homme, cette créature, sous l'asservissement de sa chair, une chair qui est rebelle à Dieu et à tout ce que cette chair fait. Combien de fois nous le voyons dans notre vie et même autour de nous? En outre, ce monde est sous la coupe active de l'ennemi de Dieu. Ce sont deux réalités. Tout va bien et patatrac, voilà l'épreuve. Et l'épreuve vient du péché et de la haine de l'ennemi de Dieu. Dans le cas de Joseph, nous avons un signe avant-coureur. Moïse nous le donne. Parce que le texte nous dit qu'en fait, Joseph, il était beau gosse. C'est un jeune homme à l'époque, n'est-ce pas? Un beau gosse. Et voilà que Madame Potiphar, prisonnière de sa nature dépravée et adonnée à ses impulsions, pose les regards sur le beau gosse. Personnellement, j'ai le soupçon que ça ne se passait pas énormément bien entre monsieur et madame Potiphar. Probablement, il était trop occupé pour s'occuper d'elle. Enfin bon, ça c'est personnel. Je ne veux pas trop m'attarder sur le cas de cette triste pécheresse. Elle sait mieux maintenant, n'est-ce pas? Nous lui sommes très familiers, en fait. Elle appartient à notre race. Les médias sont remplis de ce genre d'exemples. Et notre propre nature témoigne du fait que nous appartenons à la même race qu'elle. Qu'il suffise de dire que la chair du péché n'est jamais satisfaite, quand bien même elle possède tout. Voilà une femme qui était en vue, qui avait tout ce qu'elle pouvait désirer, on pourrait dire. Mais non, ça ne suffit pas. Il lui faut toujours trouver quelque chose de plus à posséder. Ayant perdu Dieu, le monde ne lui suffit pas. Voilà l'image de l'homme par nature. Il lui faut toujours plus, même si cela est illégitime ou entraîne des actions illégitimes. Mais concentrons-nous sur la réaction de Joseph, parce que c'est vraiment le point du récit ici. Disons d'emblée que Joseph est un homme jeune, et comme Moïse nous le dit, un homme beau. La tentation et ses multiples facettes sont réelles. Parce qu'on connaît la suite, n'est-ce pas? Puis on connaît après les chapitres 40, 41 et ainsi de suite. On peut lire cette tentation, cette épreuve, comme si elle n'avait pas de griffes. Alors Joseph a très certainement ressenti les griffes, n'est-ce pas? C'est une tentation qui est très réelle. Il est jeune, il est beau. Bien qu'intendant de tous les biens de Potiphar, il n'en est pas moins esclave. Non seulement la tentation est réelle, mais elle doit certainement mordre dans la chair de Joseph. Joseph est un homme. Si celui qui était parfait, qui viendra plus tard, a ressenti la tentation très violemment, n'est-ce pas, au point de rejeter le diable d'une façon catégorique, alors combien plus quelqu'un comme Joseph? Ces tentations, bien réelles, se situent à divers niveaux. Elles touchent à des tas de niveaux. Il y a bien sûr le côté charnel, le plus évident, le plus bas, on pourra dire. Mais n'est-ce pas aussi la voie pour retrouver l'estime de soi? Oui, je suis un pauvre esclave, mais quand même, voilà une femme influente qui est sous mon charme. Ça, c'est un aspect de la tentation. Et puis, si je la satisfais, ne pourra-t-elle pas actionner quelques leviers pour m'affranchir? Après tout, c'est l'épouse d'un fonctionnaire élevé. Ça peut me servir. Vous voyez comment il y a plusieurs niveaux là. Et il est bien probable que ces choses ont traversé l'esprit de Joseph. Il est homme. La tentation a duré, nous dit le texte, tous les jours. C'est-à-dire que ça n'était pas un coup comme ça. C'est quelque chose qui venait régulièrement et comme l'eau, ça peut entamer, n'est-ce pas? Et faites confiance à Satan pour lui garder son tranchant. Ça touchait Joseph au point qu'il l'évitait, il évitait cette femme. En outre, comme nous avons dit, Joseph est un homme. Alors voilà la question. Pourquoi Joseph ne succombe-t-il pas à cette tentation? Parce que, bien qu'étant un homme, Joseph n'est pas seulement un homme. Il est un homme de Dieu. Et je n'utilise pas cette phrase comme certains l'utilisent en disant simplement quelqu'un qui est un responsable ecclésiastique. Souvent, c'est plutôt des hommes de Satan. Pas toujours. Dieu merci. Mais quand même. Mais Joseph est un homme de Dieu. Ce n'est pas simplement dans l'intendance que Dieu est avec lui pour faire réussir ce qu'il entreprend. Non, Dieu est avec lui dans la tentation. Et c'est pour cela qu'il résiste. Son intimité avec Dieu lui fait prendre conscience de deux choses dans cette tentation. Et ces deux choses qu'on oublie pour notre propre malheur. Deux choses. Premièrement, la nature de la tentation. Il voit que c'est un grand mal. Et puis deuxièmement, la réalité de la présence de Dieu. C'est un grand mal contre Dieu. S'il succombe à la tentation, alors il fait un grand mal et il le fait contre Dieu. Et rappelons-nous les paroles de David. Contre toi et contre toi seul j'ai péché. Cette tentation, si attrayante à tous les niveaux, est une invitation à tout détruire. Elle pousse à l'égocentrisme. C'est-à-dire, c'est ce que je veux. Elle pousse à ce qui éloigne de Dieu. Elle trahit la confiance et ce qui est contre nature, contre la nature de Dieu. Et elle est illégitime. C'est un écart qui fait fi de la volonté de Dieu. Voilà toute ce qu'est la nature de cette tentation. Alors attention, la tentation n'est pas le péché, mais elle conduit, elle pousse au péché. Et quand on parle d'égocentrisme, quand on parle de jalousie, quand on parle de mensonge, de manipulation, alors Joseph en connaissait un rayon. Cela vous surprend parce que lui, en tant qu'expérience, non. Mais toute la vie de sa famille en était affligée, même depuis Abraham. Rappelez-vous, l'égocentrisme de Sarah, il lui faut un enfant. Et voilà Agar qui entre en jeu. Et regardez ce qui est devenu. Les Ismaélites l'ont emmené en Égypte. Et on sait d'où ils viennent, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. Et donc, son intimité avec Dieu est le bouclier qui le protège. Pensons à Éphésiens chapitre 6. Avec tout cela, prenez le bouclier de la foi. C'est une arme, n'est-ce pas? C'est ce bouclier qui le protège et il résiste. Non pas parce qu'il est un surhomme, mais parce qu'il est intime avec Dieu. Comment, là encore, ne pas penser à celui dont Joseph est l'image? Lui aussi, il a été tenté dans les mêmes registres. Et lui aussi, il a vaincu. Pour nous, sachons que la tentation n'est pas une fatalité. Mais Dieu donne un moyen d'en sortir victorieux. Et c'est l'intimité avec Dieu qui permet de se saisir de ce moyen. Un non si grand mal contre Dieu. Voilà les leçons qu'on peut retirer. Les leçons qui sont valables. En troisième point, la promotion vers le bas. Et nous allons aborder ça brièvement. Résister à Madame Potiphar coûte cher. Il y a un coût. Succomber à la tentation a un coût funeste, mais résister aussi. La tentatrice doucereuse se transforme en harpie, remplie de rage. Et voici notre Joseph en prison. Et on continue la descente, n'est-ce pas? Et ce n'est que la protection de Dieu qui fait qu'il est encore en vie. Parce que moi, je peux imaginer Monsieur Potiphar qui rentre, c'est un peu pour ça que je pense qu'il y avait un peu d'eau dans le gaz, qui entre et qui voit que Joseph, enfin, qui pense que Joseph a essayé de violer sa femme et tout ça, de le tromper lui, parce que Monsieur est aussi égocentrique, n'est-ce pas? Il va le mettre à mort. Il a le droit, c'est son esclave, et c'est que la protection de Dieu qui l'empêche. Mais il le met en prison. Et c'est à ce point précis qu'on lit quelque chose de très étrange. L'Éternel fut avec Joseph, dans la prison. Mais est-ce que Moïse se moque de nous? Oui, l'Éternel fut avec Joseph, même dans la prison. Et pareil, les choses réussissent. Pour quiconque aurait observé du dehors, cette phrase est complètement insensée. Parce que franchement, tout l'a abandonné. Ses amis, ses collègues esclaves ne veulent plus avoir affaire avec lui, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Non seulement il est haï de ses frères, non seulement il est éloigné de la maison de son père, non seulement il est vendu comme un animal, accusé injustement, haï, mais le voici maintenant au fond du cachot. Et l'Éternel est avec lui. Et il faut se réjouir de ce que l'Éternel est avec lui? Mais franchement, ça n'a pas de sens. Et cela ne vient pas seulement du fait qu'il trouve la faveur du gardien et que tout réussit dans la prison à partir du moment où Joseph arrive. Cela est effectivement une bénédiction. Mais quand Moïse dit que l'Éternel fut avec Joseph, il parle d'autre chose. La vraie bénédiction active de Dieu, c'est que Joseph n'est plus la vedette dans la maison de Potiphar. Vedette pour Madame Potiphar, mais vedette aussi pour Monsieur Potiphar. Tout réussi dans ses mains. Mais il est maintenant en prison. Et ça, c'est la véritable bénédiction de Dieu. En effet, Joseph n'est pas dans n'importe quelle prison. Il est bien dit au verset 20, il est dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Et ainsi, Moïse nous montre que Joseph est un pas plus près du roi et un peu plus près de son destin qui avait été révélé très vaguement il y a si longtemps. S'il était resté dans la maison de Potiphar, jamais, jamais, jamais ses frères ne se seraient prosternés devant lui. Jamais. Il fallait qu'il soit à la place du roi. Et le voilà maintenant dans la prison du roi. Est-ce que nous voyons nos épreuves sous cet angle? Alors, ça demande beaucoup de sobriété. On ne peut pas dire, « Ah, mais voilà, je me suis tapé sur les doigts, béni soit le Seigneur. » Non, non, ça fait mal. Ça fait mal. On dit des mots, des fois, qui ne sont pas dans la Bible. Hein? Non, mais en réfléchissant, je suis là. Je ne peux pas comprendre pourquoi. Mais il y en a un que je comprends. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Il y en a un que je connais. Est-ce que je le connais? C'est là la vraie question, n'est-ce pas? Joseph est un pas plus près de son destin. Et quand on voit ce corps écartelé sur le gibet, quand on voit cette âme rejetée par Dieu lui-même, quand on entend ce cri terrible de dérélection, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et quand on voit cette dépouille qui est raidissante, descendue de la potence et déposée dans le froid tombeau, la pierre roulée dessus, on peut se dire, c'est la prison, il n'y a plus de sortie, il n'y a plus de sortie. Et mes amis, quand on voit cela, réjouissons-nous, réjouissons-nous. C'est ça le paradoxe du chrétien. Du véritable croyant. Le monde ne peut pas comprendre tout cela. Il se réjouit, pourquoi? Parce qu'il sait que ce n'est pas un désastre. Parce que d'après, selon l'Écriture, d'après ce qui a été annoncé, le troisième jour, le tombeau est vide. Et c'est ainsi, quand nous voyons cela, quand nous voyons cette descente du Sauveur, nous savons que notre délivrance est en route. Même cette délivrance dont nous attendons la consommation un jour. Et ça, mes amis, c'est un grand sujet de joie. À l'époque de Joseph, personne ne se réjouissait de ce que Joseph était en prison. Personne. Son père pensait qu'il était mort. Ses frères ne savaient plus rien. Simplement, ils étaient tellement occupés avec leur culpabilité qu'ils n'avaient aucune pensée pour lui. Mais ça les rongeait quand même. Madame Potiphar, elle est certainement passée à quelqu'un d'autre. Monsieur Potiphar, tellement occupé avec ses affaires. Joseph, en prison, oublié de tous. Mais Dieu est avec lui. Et que Dieu soit avec chacun des siens, aujourd'hui, là où il est. Et qu'il glorifie son nom. Amen.